Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous rencontrons aujourd'hui la question de la justice et celle de l'injustice. Pascal est un des penseurs les plus profonds, celui qui a une des plus grandes perspicacités relativement à cette question. Nous pouvons observer une foule d'injustices dans nos rapports mutuels, dans les rapports entre les États, entre les personnes, les entreprises, etc. Nous avons une expérience de la justice et une expérience de l'injustice. Mais la plupart du temps, nous confondons le juste avec l'avantageux ou l'utile et l'injuste avec le contraire. Et nous ne voyons pas aussi la profondeur du mal qu'est l'injustice. Pascal, parce qu'il est un penseur chrétien, regarde la société sans phare, sans masque, et regarde l'homme sans illusion. Et il comprend que la question de la justice, justement, est une des questions les plus difficiles. Parce qu'en fait, nous n'avons plus de justice, nous n'avons pas de justice. Chacun se rappelle peut-être des phrases célèbres, « plaisante justice qu'une rivière borne » ou « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Pascal souligne ici la variété des constitution de la justice ou des représentations de la justice. Comme il le fait remarquer, il suffit de passer une frontière et la loi change. La coutume et la loi changent. Et alors, ce qui était juste d'un côté est considéré comme injuste de l'autre, ce qui était puni sévèrement d'un côté est puni sans sévérité de l'autre. Donc il y a bien là ici une relativité effrayante, si nous y réfléchissons, des règles de justice. Et Pascal, au lieu de se contenter de constater cette variété, cette diversité des règles de justice, de l'appréciation des actions humaines en termes de justice et d'injustice, Pascal fait davantage et il se recherche la cause première de cette situation finalement aberrante. Lisons quelques paragraphes, quelques fragments importants sur la question. Un de ces fragments s'intitule « Mien, tien ». Le mien est le tien, par conséquent. Je lis. « Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants. C'est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. » Fin de citation. Nous voyons ici Pascal mettre en scène de pauvres enfants. Il pouvait mettre en scène des puissants de ce monde, mais à ce moment-là, nous les verrions se disputer, nous les verrions se quereller, voire aller jusqu'à une lutte à mort pour la possession d'une place au soleil. Il importe qu'il ait mis la chose, qu'il ait mis en situation des pauvres enfants. Cela veut dire que nul être humain n'échappe à ce dont il veut parler, à savoir le désir d'usurpation de toute la terre. Si même de pauvres enfants sont capables de se disputer, de se quereller ou de se battre, eu égard à savoir ce qui est à moi d'une part et ce qui est à toi d'autre part, alors cela est universel, c'est-à-dire que le mal est universel. Voilà donc de pauvres enfants se disputer pour savoir à qui des deux appartient ce chien. Une formule magnifique se trouve ici, c'est là ma place au soleil. De quoi rêve chacun d'entre nous, rigoureusement, précisément, d'avoir une place au soleil. Mais voilà que la place au soleil de chacun est tout sauf garantie. Nul ne me prépare une place au soleil, nul ne me garantit ma place au soleil. Pascal montre à partir de là la violence inhérente aux rapports humains, pas seulement entre les riches et les pauvres, évidemment, elle est visible, celle-là aussi. Mais en fait, son regard profond nous fait voir que c'est de tous côtés, dans toutes les relations humaines. Chacun cherche à avoir une place au soleil et par conséquent, chacun se fait le tyran de tous les autres et par là, chacun devient l'ennemi de tous les autres. Cela met bien en question la question de la justice, la définition de la justice. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à toi? Comment départager le mien du tien? Dès lors qu'il y a et qu'il doit y avoir du mien et du tien. Que dit Pascal? Voilà le commencement de l'usurpation de toute la terre. Le commencement commence dans le désir présent en tout homme, y compris le plus démuni, un désir d'avoir une place au soleil. Donc le désir d'avoir une place au soleil est sans doute légitime, mais la manière de chercher à l'acquérir et à la conserver, à la sauver, nous conduit au plus grand crime. Et c'est donc non seulement le commencement de l'usurpation, mais l'image de l'usurpation. Parce que chacun, alors même qu'il pourrait jouir d'une place au soleil, ne voudra pas qu'autrui occupe aussi sa place au soleil. Pascal montre donc l'injustice des rapports humains, une fois de plus, universellement. Je lis quelques fragments encore. « Pourquoi me tuez-vous ? Et quoi ? Ne demeurez-vous pas de l'autre côté de l'eau ? Mon ami, si vous demeuriez de ce côté, je serais un assassin et cela serait injuste de vous tuer de la sorte. Mais puisque vous demeurez de l'autre côté, je suis un brave et cela est juste. » Évidemment, tout le monde aura reconnu ici le problème de la guerre. Donc, une frontière fait que certains actes deviennent de criminels qu'ils étaient, des actes qui sont admis. Pascal continue en montrant que nous n'avons plus de justice. Et il dit, si nous en avions une idée vraie de la justice, donc si nous en avions, nous ne prendrions pas pour règle de suivre les mœurs de son pays. C'est là que, ne pouvant trouver le juste, on a trouvé le fort. Voilà. Nous retrouvons cette pensée de Pascal. Regardons-la une première fois ici. Pascal examine ce qui s'appelle la coutume. Alors la coutume est une chose qui est un peu oubliée, si ce n'est méprisée aujourd'hui, mais c'est en fait une chose très importante, parce que nous avons bien des règles, il y a bien des gouvernements qui donnent des lois au peuple, aux populations, mais il y a quelque chose d'antérieur à la règle et quelque chose d'un peu inconscient, d'un peu immémorial, qui s'appelle la coutume, les us et coutumes. Et Pascal voit bien, parce qu'il est attentif et profond, il voit bien que ce qui règle les rapports humains, ce qui ordonne les rapports humains, ce sont les coutumes. Et il voit bien aussi que ces coutumes changent d'un pays à l'autre. Il suffit de passer d'un village à un autre, de passer une frontière, pour passer d'une coutume à une autre coutume. Donc toujours ce thème de la relativité des coutumes. Mais il ne suffit pas d'observer cette variété des coutumes, il faut savoir en tirer une conséquence, en confrontant cette variété à l'idée de justice. Parce que s'il y a une variété des coutumes, toutes ne sont pas justes et elles peuvent se contrarier, si ce n'est se contredire. Et il faut donc se demander s'il n'y a pas dans ces coutumes quelque injustice. Que dit Pascal ? Eh bien, en regardant les rapports humains, il note bien qu'il y a dans toutes les civilisations, dans tous les États, ce qu'il appelle des grandeurs d'établissement. La grandeur d'établissement, c'est l'autorité instituée, un chef d'État, un maire dans une mairie, un chef d'hôpital, que sais-je. Voilà, toute personne qui a une autorité, et une autorité établie. C'est le sens du mot. Donc grandeur d'établissement, autorité publique, le magistrat. Et Pascal souligne ici que nous devons au magistrat un respect lié à son statut. Je lis la phrase « grandeur d'établissement, respect d'établissement ». Il ne faut pas confondre un respect véritable avec un respect d'établissement. Le respect d'établissement, c'est simplement les marques de considération dues au rang de la personne, au statut de l'autorité, dues donc à l'autorité, mais cela n'empêche nullement, par devers soi, d'avoir ce que Pascal appelle une idée de derrière la tête et de savoir que s'il nous faut nous incliner devant telle grandeur d'établissement, nous pouvons néanmoins savoir par devers nous, donc cet homme, cette femme, n'a aucune grandeur véritable et que c'est un tyran, par exemple. Donc Pascal, ici, nous montre que nous ne devons pas être dupes des rapports sociaux, dupes des rapports, des hiérarchies dans la société et dans toutes les institutions que nous connaissons. Et donc la bonne attitude, c'est d'avoir un respect d'établissement à l'égard d'une grandeur d'établissement, ni plus, ni moins. Continuons la réflexion sur la justice. Nous lisons ici un fragment capital qui porte sur la relation entre la justice et la force. Un fragment qui a quelque chose de pessimiste, comme on pourra dire, dans sa conclusion. Pascal oppose ici la justice à la force et la force à la justice, en se demandant laquelle des deux l'emporte et laquelle des deux en droit devrait l'emporter, ou en vérité. Qui ordonne les rapports humains, est-ce la justice ou est-ce la force ? Voilà la question primitive qu'il s'est posée. Et il se demande ce qui fait que nous suivons l'une plutôt que l'autre. Sa thèse, c'est que si nous faisons ce qui est juste, la meilleure situation, c'est que nous le fassions parce que cela est juste. En revanche, si nous sommes en situation telle que quelqu'un est plus fort que nous, une instance autre est plus forte que nous, eh bien, c'est par nécessité que nous suivrons cette force. Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. Point. Pascal continue en montrant que la justice sans la force est impuissante. Un tribunal, une autorité peut avoir la vérité de son côté, mais si elle n'a pas la force pour faire appliquer la règle de droit, pour faire appliquer l'arrêt, le décret, etc., cette justice dépourvue de force est réduite à l'impuissance. Maintenant, Regardons ce qui arrive quand nous avons la force sans la justice. Eh bien, un homme qui déploie sa force ou une institution qui déploie sa force sans la justice et même contre la justice est tyrannique. Donc nous avons ici une opposition et un double échec. Justice sans force qui est impuissante et force sans la justice qui est tyrannique. Pascal continue sa méditation. La justice sans la force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. Pourquoi la justice sans la force est-elle contredite? Eh bien d'abord parce que, Pascal vient de le montrer, nous ne savons plus distinguer le juste de l'injuste. Nous avons tous des opinions relatives à la justice, relatives à ce que c'est que la justice, et pas seulement relatives à telle ou telle loi, telle ou telle action, pour savoir si elle est juste ou non. La justice donc est contredite, ce qui veut dire qu'il y a ici un profond désaccord des humains, eu égard à ceci ou cela, et eu égard à l'idée même de justice. Et Pascal en donne la cause ici, c'est qu'il y a toujours des méchants, c'est-à-dire que même si nous étions de bonne foi, il y a toujours des méchants, cela veut dire qu'il y aura toujours des gens qui auront intérêt à contester, à contredire la justice, parce que la justice va à l'encontre de leurs intérêts immédiats. De son côté, la force sans la justice est accusée. Par qui est-elle accusée? Eh bien, elle est accusée précisément par les justes. La force sans la justice porte un nom, ça s'appelle la violence.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Continuons l'étude de ce fragment admirable. Pascal nous a montré que nous suivons la justice en vérité parce qu'elle est juste et que nous suivons la force simplement parce qu'elle est plus forte et que c'est donc nécessité et nous faisons de nécessité vertu comme nous disons parfois. Il nous a montré aussi que la justice seule, donc sans force, est réduite à l'impuissance, tandis que la force sans la justice est tyrannique. La force sans la justice, nous l'appelons la violence. La justice sans la force, la justice toute seule, donc l'idée de justice aussi bien, sera toujours contredite parce qu'il y aura toujours, ne serait-ce que cela, il y aura toujours des méchants qui verront dans la justice leur ennemi et qui voudront la réduire à néant. La force sans la justice, de son côté, est accusée. Accusée par qui? Par ceux qui ont au moins l'idée de justice, alors même qu'ils peuvent bien être incapables de définir la justice en question et de dire ce qui serait juste, c'est-à-dire ce qu'il serait juste de faire dans telle ou telle circonstance. La conclusion de cette première partie du fragment est claire, c'est que si nous séparons la justice et la force et la justice, nous voyons l'échec. La justice seule est impuissante, la force seule est tyrannique, c'est la violence, et nous ne voulons pas de cela. Chacune des deux situations donc est une impasse. Conclusion, il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Il faut les relier, il faut les articuler et il faut les faire travailler ensemble, main dans la main, la justice et la force. Mais c'est là que Pascal nous enlève une naïveté, parce que nous pourrions croire naïvement qu'il suffit de mettre ensemble la justice et la force au même rang et de les faire se donner la main et travailler en cheminant côte à côte. En vérité, c'est impossible. Ce serait comme le pot de fer et le pot de terre, pour reprendre la célèbre fable de La Fontaine. S'il faut mettre ensemble la justice et la force, en vérité, il faudra les distinguer, il faudra les hiérarchiser. Ce que montre la suite du fragment. Pascal montre que, à partir de là, deux solutions s'offrent à nous. Première solution, faire que ce qui est juste soit fort. Deuxième solution, faire que ce qui est fort soit juste. Reprenons. Puisqu'il faut mettre ensemble, articuler ensemble la justice avec la force, la première solution serait de trouver ce qui est juste, de savoir et d'être d'accord sur la définition de l'être juste et sur ce qu'il est juste d'accomplir dans telle circonstance. Et à ce moment-là, donner la force à ce qui est juste, rendre fort ce qui est juste. Deuxième solution, trouver ce qui est fort, savoir qui dispose de la force, qui est le plus fort, ici et maintenant, et lui demander ou lui octroyer la justice. Pascal examine ensuite les deux hypothèses, les deux voies, pour montrer paradoxalement l'impossibilité des deux d'une certaine façon. Regardons de plus près. Comment objecte-t-il à la première possibilité ? Ainsi, je lis. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. La justice est sujette à dispute. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, d'abord, in concreto, nous ne serons pas d'accord pour savoir si telle loi est juste ou injuste, si telle action est juste ou injuste. Il y aura toujours une dispute, un désaccord entre nous relativement à une action, à une loi, à un projet, etc. Et ensuite, l'idée même de justice, la définition même de la justice, sera aussi le plus souvent sujette à dispute. Faute d'accord entre nous, la première voie est donc impraticable. Puisqu'il faut mettre ensemble la justice et la force, la première voie c'était faire que ce qui est juste soit fort. Nous trouvons donc ce qu'il est juste de faire, nous trouvons l'idée de justice et nous lui donnons la force de se réaliser, de s'accomplir. Mais voilà que la justice est sujette à dispute et par conséquent nous ne pourrons pas nous trouver la justice, nous ne trouverons pas le juste pour le rendre fort. Il reste donc la deuxième possibilité. La force, dit Pascal, est très reconnaissable et sans dispute. En effet, à un moment quelconque de l'histoire, il n'est pas si difficile de savoir qui est pour l'instant le plus fort, en termes d'entreprise, en termes d'État, d'armée, d'hommes, d'individus, etc. Donc, trouver le juste nous est impossible. En revanche, trouver le fort, c'est sans dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Et nous sommes clairvoyants, nous savons qui est pour l'instant le plus fort, au niveau des rapports internationaux, etc. Voilà. Donc là, il semble y avoir une issue. Puisque nous n'avons pas trouvé la justice pour la rendre forte, mais qu'en revanche, nous pouvons trouver la force puisqu'elle est reconnaissable et sans dispute, à ce moment-là, c'est la seconde voie qui reste ouverte. Et nous verrons cependant que cette seconde voie ouverte nous conduit à une nouvelle aporie ou une nouvelle difficulté. Je continue la lecture. Ainsi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Reprenons. Quelle est donc notre situation dans l'histoire de l'humanité ? Nous n'avons pas pu donner la force à la justice, parce que, je vous l'ai dit, nous sommes en désaccord sur ce qu'il est juste de faire et sur l'idée de justice. Pascal ajoute un autre point, c'est aussi parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste. Voilà donc que la force fait obstacle à la justice, fait entrave à la justice et prétend même se substituer à la justice. La raison du plus fort est toujours la meilleure, tout le monde aussi connaît ce vers immortel de La Fontaine. Voilà donc la force tenir tête à la justice, anéantir la justice et prétendre que c'est elle, la force, qui est juste et que parce qu'elle est force, elle est ipso facto la justice. La force va même jusqu'à affirmer que la justice est injuste et que c'est elle, la force, qui est juste. La raison du plus fort est toujours la meilleure. L'homme ou l'entreprise ou l'État, etc., qui est en position d'être le plus fort, aura naturellement tendance à dire que sa cause est la meilleure. Et cela se voit dans l'histoire de l'humanité, cela aussi se voit dans les écrits de Thucydide, par exemple, dans la célèbre affaire de Mélos. Voilà. Donc, quelle est la conclusion ? Eh bien, je relis le fragment, nous n'avons pas pu faire que ce qui est juste fût fort. Échec de l'humanité. Nous n'avons pas trouvé le juste, pour toutes les raisons que nous avons dites. Qu'est-ce qui nous est resté ? Il nous est resté le fort. Nous savons qui est aujourd'hui, pour un certain temps encore, le plus fort. Qu'advient-il alors ? On a fait que ce qui est juste fût fort. Cela veut dire que la situation consiste à discerner qui est le plus fort et à faire en sorte que ce fort soit juste. Mais nous voyons bien ici la nouvelle aporie dans laquelle nous tombons, parce que rien ne garantit que le plus fort sera juste. Le plus fort sera simplement le plus fort, il aura de lui-même toujours tendance à être simplement non seulement le plus fort, mais le plus fort sans la justice. C'est là encore le pot de fer contre le pot de terre, et c'est là encore la raison du plus fort qui l'emporte. Et alors, si on fait que ce qui est fort soit juste, dans le meilleur des cas, ce qui est fort sera juste, mais d'une justice infiniment fragile, d'une justice même ambiguë, et la plupart du temps, la justice brillera par son absence. Vous voyez donc le caractère pessimiste, comme on pourrait dire, du fragment de Pascal. En fait, à défaut de nous mettre d'accord sur l'idée de justice et sur ce qu'il est juste d'accomplir ici et maintenant, il nous reste à savoir, et nous le savons, qui est le plus fort, et il nous reste à espérer, à travailler pour que ce fort, s'il le veut bien, si cela correspond à ses intérêts, etc., ait ou un semblant de justice ou un certain degré de justice. Donc vous voyez ici le caractère lucide, décapant, pourrait-on dire, du travail de Pascal, qui nous empêche de prendre nos idéaux pour la réalité. La réalité des rapports humains, politiques, sociaux, etc., c'est la force, c'est-à-dire en fait, c'est la violence. Ce sont des rapports marqués par une justice qui brille par son absence et une force sans la justice. Voilà. Platon est ensuite cité par Pascal, Platon ainsi qu'Aristote, dans un fragment aussi célèbre et très intéressant, très important, que je lis. On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient des gens honnêtes et comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlaient pensaient être rois et empereurs. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie au moins mal qu'il se peut. Profond fragment de nouveau. Pascal s'en prend ici à notre imaginaire relatif aux philosophes de l'Antiquité. Effectivement, si vous avez vu par exemple la fresque de Raphaël, l'école d'Athènes qui se trouve au Vatican, vous avez vu Platon et Aristote bien habillés, avec de grandes robes sur les vêtements de l'Antiquité. Voilà. Et nous les voyons doctement, faisant signe et parlant. Mais Platon et Aristote ne sont pas tels que notre imaginaire nous les représente. Pascal souligne ici le fait qu'ils étaient des hommes, j'allais dire comme vous et moi, c'est-à-dire des personnes honnêtes, aimant la vie, riant avec leurs amis, et non pas les pédants que l'on imagine et que l'on représente. Le point qui m'importe ici, c'est le regard de Pascal sur leur livre intitulé « Les lois ou la politique », référence à des ouvrages de Platon et d'Aristote en effet. Alors, on peut ici être un peu sceptique à l'égard de la thèse de Pascal quand il dit que c'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. On peut même estimer qu'au contraire que c'était une partie nécessaire et féconde de leur philosophie. Mais je ne débattrai pas de ce point. Ce qui m'intéresse est autre chose. Pascal ajoute donc quand même, je le signale au passage, la plus philosophe, donc partie de leur vie sous-entendue, était de vivre simplement et tranquillement. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. Voilà. Là encore, c'est une phrase qu'on pourrait dire en premier degré pessimiste de Pascal, une phrase un peu effrayante. Et c'est que l'homme, le sage, qui veut écrire sur la politique, qui veut proposer une cité meilleure ou qui veut faire connaître ce qu'est la cité la meilleure, quelles sont les bonnes lois, etc. Voilà ce que cet homme est comparable à quelqu'un qui voudrait donner des règles à des fous. C'était comme pour régler, c'est-à-dire donner des règles, des lois, à un hôpital de fous. Vous voyez bien l'impossibilité de la mission encore, parce qu'on ne peut pas donner de loi à quelqu'un qui n'a plus la raison pour recevoir la loi et vivre d'après la loi. Donc là encore, nous voyons le caractère pessimiste de Pascal, qui nous fait voir un homme déchu et un homme incapable de connaître la justice, de consentir à la justice, et un homme qui est comparable à un fou dans un hôpital de fous, un homme à qui on donnera donc des lois, mais à qui on donnera en vain des lois. Pascal termine en montrant que Platon et Aristote, pense-t-il, ont su qu'ils s'adressaient à des fous et qu'il fallait donc entrer dans leur folie pour peu à peu essayer d'atténuer leur folie et essayer de leur faire entendre raison, comme on dit. Mais Pascal ici est sans illusion, il voit bien que tout ce que l'on peut faire, c'est modérer la folie du pouvoir, la folie inhérente au pouvoir. Rappelons-nous que c'est Platon le premier qui a montré que le pouvoir rend fou, en ceci que dès qu'un homme a du pouvoir, il ne peut pas ne pas être tenté d'en abuser. Donc nous voyons bien ici le caractère abyssal de l'homme chez Pascal, et à quel point l'homme n'est pas cet être bon et débonnaire que l'on croit, mais à quel point l'homme peut être infiniment méchant.